Vous écoutez France Culture.
Terre, le magazine de l'environnement, une émission ce matin en hommage à Henri Pezra qui nous a quittés. Cette émission, nous aurions souhaité la faire avec lui. On la lui avait proposée plusieurs fois avec insistance. On voulait qu'il nous parle de lui, de sa vie, et à travers sa vie, on savait qu'il y aurait énormément de luttes qui serait mise à jour, des luttes qu'il a impulsées, qu'il a accompagnées. On savait aussi qu'on entendrait des histoires absolument terrifiantes, des histoires où il est question de travail, de santé, d'environnement, d'ouvriers exposés, plus exposés que les autres, des ouvriers qu'il a accompagnés pendant parfois des décennies. Autour de la table ce matin, un certain nombre de ses amis. Il y en a d'autres au téléphone, d'autres encore qui n'ont pas pu venir parce qu'ils n'étaient pas en France. Josette Roudère, par exemple, qui nous a envoyé ce texte que je vous lis. Je garde ça d'Henri. Il y a des personnes qu'on aime tout de suite et presque aussitôt, on sent que ce qui commence est définitif. C'est ce qui s'est passé avec Henri. Il faut un peu se remettre dans le contexte, l'ambiance, l'air du temps social, le climat politique de ces années Giscard qui n'étaient pas que les années Pattes-d'Ef. 68 n'était pas bien loin, et les débats ouvriers, étudiants, usines, fac, CGT et autres étaient plutôt rudes. Et nous étions des cégétistes très cégétisés dans notre usine à Clermont-Ferrand. La crise déjà, c'était celle du pétrole à ce moment-là et elle faisait des ravages. Des tas de petites boîtes fermées un peu partout. Dans le Puy de Dôme, il y avait plus de 10 usines occupées pour refuser le chômage, et Amisol était l'une d'elles. En effet, le 13 décembre 1974, sans tambour ni trompette, la fermeture de l'usine était annoncée, laissant 271 personnes sur le carreau. L'amertume, la colère, le besoin de faire quelque chose, de continuer à exister, de compter au moins un peu, ont conduit à l'occupation de l'usine avec comme revendication sa réouverture. On en était là quand une délégation de Jussieu est venue à notre rencontre. Ils étaient plusieurs, attentifs et militants. Mais celui dont l'humanité nous a transpercés, c'est Henri. On ne peut pas expliquer, décrire tout ce qui s'est passé, déclenché à ce moment-là. Nous n'avions d'ailleurs pas du tout conscience de ce qui se jouait alors, ni sur le sens de cette rencontre, ni sur la synergie fabuleuse qu'elle provoquerait, ni sur le fait qu'une page de l'histoire de la lutte contre l'amiante s'écrivait, et encore moins ce que cela recelait pour nous, personnellement. Nous étions des victimes de l'amiante à l'état pur, à l'état brut, gavées de poussière, ignorantes du danger. Mais avec un capital de combativité assez important. Henri, lui, arrivait avec le savoir le plus avancé qu'il soit en matière d'amiante, et surtout la volonté d'en faire quelque chose, de le mettre au service de ceux qui en avaient besoin. Pour lui comptaient surtout ceux qui ne comptaient pas, ou si peu, dans cette société. Et ça nous réchauffait, ça nous donnait du courage. Avec respect et patience, mais sans le moindre paternalisme, Henri nous a dit ce que nous aurions dû savoir, ce qu'on nous avait toujours caché. L'amiante tue et Amisol ne doit pas rouvrir. Et puis chemin faisant, avec lui on a compté nos morts. Il y en avait 12 en quelques petites années. Les malades, comment savoir? Personne n'était suivi, aucun examen sérieux. On passait bien quelques radios, sauf que ce n'étaient pas les bonnes. C'était précisément celles qui ne permettent pas de voir quoi que ce soit. Recevoir tout ça, digérer tout ça en si peu de temps, dans une usine fermée, occupée, en ruine, avec des ouvrières déjà cabossées par la vie et mises complètement en vrac par la situation. Et continuer le lendemain et le surlendemain, et tenir, et faire tenir les autres, et recommencer. Il a bien fallu qu'il se passe quelque chose de fort pour que tout se déroule sans drame, sans catastrophe. C'est peu de dire que cette relation entre Henri et les amis Sol avait de l'épaisseur. Les qualificatifs, les mots sont un peu dérisoires dans ces cas. Pourtant, dans ces années-là, il était courant chez les ouvriers de se méfier de ces intellectuels qui allaient dans les usines. C'était une époque, une culture, une connerie, mais c'était comme ça à ce moment-là. C'était en tout cas pour nous une souffrance supplémentaire, pas facile à dire, ni même à se l'avouer à nous-mêmes. Les militants qui exprimaient ces idées étaient avec nous tous les jours, sans défaillance, solidaires et courageux, protecteurs même. Henri et l'équipe de Jussieu étaient pour nous quelque chose du même ordre et pourtant c'était autre chose. C'est difficile d'expliquer correctement, en respectant chacun. On a reparlé de tout ça avec Henri, mais l'histoire avait passé. L'amiante était interdit et personne ne pouvait dire qu'Henri n'était pas l'âme de ce combat. On était même arrivé à ce temps où il n'y avait plus que des résistants anti-amiante, jusqu'aux négationnistes d'hier. Quand, en 1994, n'en pouvant plus de voir souffrir et mourir les amis Sol, on a rappelé Henri pour relancer la lutte, c'est reparti, comme si on s'était quitté la veille. C'est alors engagée la deuxième étape de cette lutte infernale. Avec Henri, nous avons construit la première association de victimes ouvrières à Clermont, le CAPER. Puis, il s'est acharné à construire l'Association nationale des victimes de l'amiante, l'Andeva. Acharné, le mot n'est pas trop fort, tant il a fallu de ténacité, d'endurance et de persuasion pour y arriver. Mais il en fallait plus pour arrêter Henri. Et ça a été une aventure passionnante. Toutes ces années de travail, seul, voire seul contre tous, aboutissaient enfin. Et les victimes allaient compter. On retrouve ce fil conducteur caractéristique d'Henri. Que rentrent en scène ceux qui sont ignorés, niés, bafoués, empoisonnés même, dans ce cas précis. Tous les documents, les travaux, les articles, les témoignages, les photos, les pièces, les preuves que possédait Henri, tout a été mis au service de cette cause. Le premier CA de l'Andeva s'est constitué à partir de sa connaissance des victimes. Sa créativité, son courage, son travail ont permis de lancer l'association comme un contre-pouvoir intransigeant. C'est ce qui a fait avancer plus vite vers l'interdiction de l'amiante, vers la réparation envers les victimes. C'était ça, Henri Pézra. Un être magnifique, qui a su nous transmettre tellement de choses et qui n'a jamais usé de son statut d'intellectuel pour nous enfumer. Quelqu'un qui aimait les autres et refusait ce système pourri. Il paraît qu'on est vieux quand on arrête de vouloir changer le monde. Assurément, Henri est mort jeune. Les victimes de l'amiante lui doivent à peu près tout. Les victimes d'Amisol lui doivent tout. Et moi, je lui dois d'être un peu plus libre dans ma tête. Blanza, le 19 mars 2009, en revenant de la manif, José Trouder. Annie Thébaumoni, vous avez été la compagne de ces luttes. On vous a reçu déjà plusieurs fois, à Terre à Terre. Vous avez écrit un livre dont on sent qu'à chaque page, il a été pensé, écrit avec Henri Pézra. Travailler peut nuire gravement à votre santé. Fabrice Nicolino, on vous connaît aussi comme journaliste, écrivain, blogueur, ami d'Henri. Il y a également avec nous Gérard Voide, qu'on avait rencontré à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, où une usine d'amiante a empoisonné la population pendant des décennies. Elle a été fermée, elle continue d'empoisonner la population. Vous savez nous raconter ça. Véronique Lapidès, on vous rencontre pour la première fois, mais Henri nous avait déjà parlé de vous. Vous êtes à Vincennes et c'est l'histoire de cette école maternelle où des enfants en nombre vraiment surprenant ont développé des cancers sur le site d'une ancienne usine, une usine Kodak. Et puis au téléphone avec nous Christian Micot qu'on avait déjà entendu au téléphone. Christian à Commentry qui a travaillé depuis très longtemps avec Henri. Depuis le début des années 2000, Commentry, c'est cette histoire, c'est l'usine Adiceo, cette histoire de suppléments vitaminés qu'on a fabriqué pendant des années dans un laboratoire. Et puis, à partir du moment où on a introduit un composé, le C5, je ne sais plus exactement ce que c'est, on commençait à se développer des cancers du rein chez les ouvriers. Alors peut-être, Christian, puisque vous avez travaillé si longuement avec Henri, pourriez-vous nous raconter la façon dont cette lutte, qui a été une lutte syndicale, une lutte des ouvriers, pour faire reconnaître ce qui se passait, a rencontré, a croisé à un moment le chemin de cet universitaire, Henri Pézra, qui avait travaillé à Jussieu pendant des années et qui a changé un jour sa trajectoire complètement parce qu'il a rencontré l'amiante.
Oui, bah écoutez, déjà Henri, c'était mon ami. Et puis, deuxième chose, bon, c'est un scientifique, c'était un scientifique, excusez-moi, hors pair, et surtout un chercheur militant. Donc, quand on l'a rencontré et qu'on a créé l'Association des malades de la chimie, vraiment, c'était une bouffée d'oxygène, excusez-moi, mais parce qu'on n'avait pas la rigueur du travail, on n'avait pas la façon de recherche scientifique. Et avec lui, on a pu créer cette association. Ça n'a pas été facile, parce qu'en face, on avait un laxisme du ministère de la Santé et ministère du Travail, et en plus de l'INVS, qui nous a permis
L'INVS,
de mettre pas mal de bâtons dans les roues.
C'est l'Institut national de veille sanitaire qui était censé faire des enquêtes épidémiologiques, c'est ça, sur ce qui se passait dans,
Exactement.
Dans cet atelier.
Mais bon, leur étude est un petit peu dispersée. Il y a eu surtout le refus de centrer leur étude sur les excès de cancer au niveau de la vitamine A. Donc, ils ont fait un choix d'études de mortalité qui partait des années 1960 à 1993, qui était sans intérêt. D'ailleurs, on attend toujours 6 ans après leur rapport. Je pense qu'ils sont assez embêtés pour le faire. Et c'était un combat avec Henri.
Qu'est-ce qu'Henri
Pézra... Il
fallait
une très grande rigueur pour lutter contre des gens qui allaient dans un sens tout à fait opposé. Est-ce qu'ils ont la pression du lobby de la chimie, je pense, et des ministères.
Qu'est-ce qu'Henri Pézra a pu vous apporter? Et puis, tout simplement, comment est-ce que vous avez pris contact avec lui? Parce que là, on n'était pas nécessairement dans ce que lui connaissait, l'amiante.
Voilà, exactement. On a connu Henri par l'intermédiaire de Josette Rouder.
Josette Rouder d'Amisol. Donc là, on voit déjà le début d'un réseau qui s'est mis en place autour de la question de la santé au travail.
Parce qu'on avait pas mal de problèmes d'amiante donc chez Adiceo. On parle toujours d'Adiceo, mais je voulais dire que derrière Adiceo, c'est quand même Ron Poulin qui aventise pendant des années, qui ont pollué les gens et qui ont vendu l'entreprise à un groupe chinois, Shen China, donc avec le nom d'Adiceo maintenant. Ce qui est important d'ailleurs à signaler, parce que derrière cette image, il y a des gens qui se sont cachés pendant des années. Dès qu'on a connu Henri, on a pu monter une association et arriver donc à faire reconnaître les 10 premiers cas de cancer du rein, qui n'étaient pas évidents, parce qu'on était sur des cancers hors tableau.
Donc, hors tableau, c'est-à-dire qu'il n'était pas...
Grâce à une médiatisation très très importante avec Henri et puis l'association et le syndicat CGT, CHSCT, nous avons pu faire reconnaître ces cancers hors tableau.
Anita Bomoni, des cancers hors tableau, tout simplement parce que le tableau des cancers, présente des lacunes assez considérables.
Oui, tout à fait. En fait, le système de réparation reconnaît seulement une vingtaine de substances comme ouvrant droit à l'indemnisation en cas de cancer. Alors, il y a un système complémentaire qui permet de reconnaître quand on n'est pas dans le tableau, mais pratiquement, c'est très très rare d'obtenir la reconnaissance pour des cas de cancer qui ne sont pas sur les tableaux. Et donc là, le travail qui a été fait par Henri, Christian et les militants d'Adiceo est un travail remarquable. Avec l'aide aussi de Gérard Barra, le médecin du travail, parce que ils ont construit très patiemment toutes les preuves qui interdisaient à des experts de dire qu'il n'y avait pas
de lien
possible entre le travail qui était fait dans cette usine et les cas de cancer. Et ils ont même été au niveau de preuve qui a permis la reconnaissance en faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire que tout un ensemble d'études avaient été faites à la demande du médecin du travail, des études toxicologiques, montrant qu'on était en présence d'un mutagène très probablement cancérogène. Henri a aidé à la construction de l'argumentaire, je dirais, Mais l'argumentaire scientifique, mais tout le travail militant qui consiste à faire de bons PV de CHSCT pour un médecin du travail, à anticiper sur les morts au lieu d'attendre une étude épidémiologique qui compte les morts, tout ce travail-là a permis aussi, avec le soutien d'Henri, d'arriver à ce qu'un juge considère que l'employeur connaissait le risque et n'a pas pris les précautions. Donc, il a été condamné pour faute inexcusable.
Et là, donc, on est rentré de plein pied dans ce qui montre l'importance essentielle de ce lien entre des scientifiques, des experts militants, comme le disait Christian Micot, et des ouvriers en lutte pour faire reconnaître qu'il y a une atteinte extrêmement grave à leur santé. Mais ce que je voudrais peut-être, ça serait maintenant qu'on remonte dans le temps et qu'on voit comment tout ça s'est agencé. Je le disais, Henri Pezerat était dans les années 70 chercheur à Jussieu. Il était chimiste.
Alors, il avait fait l'école de chimie, mais il était physico-chimiste et il travaillait sur les propriétés de surface des minéraux, mais dans une perspective industrielle, je dirais, enfin, dans la perspective de dégager les propriétés de ces matériaux en recherche fondamentale. Et puis, quand il y a eu la lutte à Jussieu sur... Enfin, d'abord, il a découvert de la poussière sur sa paillasse, et avec d'autres chercheurs, ils se sont inquiétés de cette poussière. Jussieu était construit depuis 4-5 ans, pas plus.
Oui, c'était la fin des années 60.
C'était la fin des années 60, donc l'université avait ouvert au début des années 70. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont dit, c'est pas possible, nos expériences sont polluées par une espèce de poussière qui tombe du plafond. Et les scientifiques ont un accès beaucoup plus facile à l'information, ce qui fait que très rapidement, ils ont compris ce qui se passait. Il y avait déjà des luttes sur l'amiante aux États-Unis, notamment. Et donc, très rapidement, il a pris la mesure de ce qui se passait. Donc, il y a eu le mouvement, la rencontre avec les ouvriers. Et c'est très important, cette rencontre dont parle Josette Roudère, parce que c'est le moment où Henri s'est dit « je ne peux pas continuer à faire de la science d'un côté et militer de l'autre, ça ne va pas ». Et ça faisait longtemps qu'il se posait ces questions. Et là, il s'est dit « à partir de ce que je fais, je peux orienter mes recherches pour que ce que j'ai appris à faire dans mon métier de chercheur, je le mette au service d'une compréhension des propriétés cancérogènes de l'amiante ». Et à partir de la fin des années 70, il a changé son activité de recherche. Alors, ce n'est pas facile, parce que changer une activité de recherche dans un labo de recherche fondamentale sur les caractéristiques des minéraux et introduire là un dialogue nécessaire avec la biologie, avec la médecine, et puis surtout le faire en lien avec des collectifs ouvriers qui se posent des questions. Et pour Henri, le moteur de ses recherches, c'était ça. C'est-à-dire, c'est ce que disait Josette, c'est... faire en sorte que mes recherches servent à faire reconnaître, à faire émerger dans l'espace public ceux qui habituellement n'y sont jamais.
Avant même de faire reconnaître, de faire connaître. Puisque faire ce qui est terrible dans le cas des ouvrières d'Amisol, c'est qu'il a été obligé de leur annoncer la terrible nouvelle. Elles avaient travaillé pendant des années sans savoir qu'elles étaient contaminées.
Tout à fait. Et c'est aussi l'engagement d'Henri dans... Enfin, ce qu'on appelle aussi, avec d'autres chercheurs militants, la nécessité pour nous, notre responsabilité par rapport au droit de savoir, au droit au savoir. C'est-à-dire que ce qui est insupportable, et en particulier en France, c'est la confiscation de l'information et du savoir sur les risques, aussi bien sur les lieux de travail que dans l'environnement. Et pour Henri, c'était une question, je dirais même une obsession, de diffuser toute l'information au moment où il l'avait. Il la dispatchait. Il faisait exactement l'inverse de ce qui souvent est fait en milieu scientifique, c'est-à-dire plutôt un enfermement dans l'espace scientifique.
Cette volonté de savoir, Gérard Voide, ça a été la vôtre avec votre femme ? Habitant à Aulnay-sous-Bois, Ça s'est passé en fait autour, là encore, d'un drame, la maladie, puis le décès de votre beau-frère, qui n'avait jamais, lui, travaillé dans une usine. Donc là, on sort du cadre des travailleurs qui sont exposés, mais on reviendra dessus, effectivement. Mais là, on arrive à l'histoire, au problème des riverains. Aulnay-sous-Bois, petite commune tranquille de banlieue, dans laquelle, pendant de nombreuses années, une usine a fabriqué ou défloqué, non pas exactement broyé. Défloqué, broyé, voilà, broyé de broyé. L'amiante, mitoyenne d'une école, de toute une rue de petits pavillons où habitait votre beau-frère.
Donc mon beau-frère déclare un mésothélium, donc les cancers de la plèvre.
Qui sont, on le sait, liés directement à l'amiante.
Voilà, on est sûr que c'est effectivement des maladies typiques de l'amiante. Il habitait à 70 mètres de l'école, toute la famille habitait là, allait à l'école, ils sont allés à l'école, les trois enfants, l'école était à 60 mètres de l'usine, et donc, voilà quoi, une usine en plein centre-ville, où on a donné l'autorisation de broyer de l'amiante, avec quand même la précaution qu'il fallait que les ateliers soient parfaitement étanches, aucune poussière devait s'en échapper. Donc en 38, déjà, les autorités savaient le danger. Malgré tout, et malgré une pétition des riverains, ce qui est assez extraordinaire en 38 quand même, qui s'opposait à l'ouverture de cette usine. On a ouvert cette usine, on a donné l'autorisation et ça n'a jamais été du tout étanche. C'est d'où le problème de la poussière qui volait partout, 3 mm de poussière autour de l'usine. Voilà.
3 mm de poussière autour de l'usine et lorsque votre beau-frère tombe malade, Nicole, votre épouse, décide qu'elle veut savoir.
Elle commence à rechercher. Alors évidemment, c'est aussi bien tombé, parce que c'est tombé dans les années 95, quand on a commencé à médiatiser ce problème de l'amiante, parce que moi, j'ai été électricien. Bon, l'amiante, pour moi, c'était le magique minéral, justement. Hein. Ça empêchait le feu. Et donc, on a commencé à chercher. On a rencontré les premiers barrages officiels, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas nous montrer le dossier. Et en rusant un peu, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement, qu'on nous mentait. Parce qu'en fait...
Alors, qui était ce « on » dans ce cas ?
Alors, le « on » est très précis, effectivement. Disons qu'il y a le mensonge de l'industriel qui dit « non, on n'a pas fait d'amiante. On a fait de l'amiante, mais c'était avant-guerre. Et ça fait 60 ans qu'on n'a pas repris la production d'amiante. Le préfet relaye exactement l'information, alors qu'il a un dossier épais de 50 cm, dit « non, ils n'ont pas fait d'amiante après-guerre ». Maire, pareil, renchérit. Il est plus fort parce qu'il dit que l'amiante. Il dit que cette usine fabriquait du silice et de l'oxyde de fer, ce qui est composé
Il décompose l'amiante et voilà. Donc ça ne s'appelle plus de l'amiante.
Voilà. Donc on a bien compris qu'on nous mentait. On a commencé à rechercher. Ce qui est extraordinaire. J'ai eu le numéro de téléphone d'Henri, je ne sais plus trop comment. Ils me connaissaient.
Deux instituts, il faut au contraire les articuler l'un sur l'autre, et qu'il y ait une répartition intelligente du travail, mais ces deux instituts restent à construire. Alors on fait des poussières, de nouvelles agences, on a créé il n'y a pas longtemps l'Institut de veille sanitaire, l'Assemblée nationale vient de décider la création d'une agence santé environnementale, etc. Mais tout ça, ce sont des instituts et des agences avec des moyens absolument ridicules, si bien que quand il se passe quelque chose, on s'aperçoit qu'ils sont finalement quasiment incapables de le prendre en charge. Il y a eu récemment un problème d'excès de cancer dans une école, d'excès de cancer chez des enfants de maternelle. Quand j'ai demandé à l'Institut de veille sanitaire de prendre le problème en charge, ils ont demandé ensuite à la mairie de faire les analyses, comme si une mairie pouvait avoir l'initiative de rechercher le laboratoire compétent, le type d'analyse à faire, etc. C'est-à-dire que manifestement, cette poussière de petites agences et instituts ne suffira pas.
C'était un entretien que nous avions réalisé en juin 2000. Véronique Lapidès, c'était le tout début de l'affaire Kodak, l'affaire de l'école de Vincennes.
Oui, c'était vraiment le début.
Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui alors ?
Vous voyez, on n'en est pas beaucoup plus loin, à part que, qu'est-ce qu'on peut dire, l'étude épidémio s'est arrêtée et on est à une surveillance, puisque la, vraiment la dépollution, on n'arrive pas à l'obtenir.
Qu'est-ce qu'on appelle une surveillance ?
Une surveillance, c'est surveiller finalement les hauteurs de la nappe, parce que c'est finalement le plus dangereux. Savoir que cette nappe actuellement, elle est basse, puisque c'est elle qui contient des produits dangereux, cancérogènes. Et par contre, plus cette nappe sera à hauteur, bah, remonter et pourra éventuellement inonder des sous-sols profonds ou être vraiment à très peu de mètres des sous-sols, on pourra avoir des transferts gazeux de cette nappe vers l'air ambiant et contaminant évidemment les zones habitées.
Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé impliqué, investi dans cette histoire à un point qu'on va découvrir ?
En fait, je connaissais le site Kodak du temps de son fonctionnement hein, jusqu'en 86. Je connaissais très bien ce quartier. Et puis, ils sont partis. Le site a été réaménagé en zone habitable. Il y a une école maternelle. Et donc, j'ai habité dessus. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée, mais pensant évidemment que tout avait été fait, le nécessaire avait été fait avant d'installer quand même des gens et des enfants. Et donc, c'est en 99 où, effectivement, les premiers cas ont été connus. Et Henri, qui avait ses bureaux en Deva juste à côté, finalement, c'est cette proximité qui a fait qu'on s'est retrouvés. Et Henri a immédiatement pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre ces cancers d'enfants et cette zone
une
industrielle.
Pollution d'origine industrielle, oui.
Et on s'est rendu compte, finalement, somme toute, qu'il n'y avait eu aucune dépollution, aucun regard sur les terres, sur la nappe phréatique avant de reconstruire. On a même, au contraire, on s'est servi de cette terre pour remblayer, etc. Absolument incroyable.
Alors, ce qui est incroyable, c'est aussi les suites de cette histoire, la volonté absolue d'étouffer, et puis le fait que vous avez été traîné devant les tribunaux pour diffamation.
En fait, on a essayé de faire en sorte que cette zone soit dépolluée, parce que là, bien sûr qu'on ne rêvait peut-être pas à faire un lien entre substances et les cancers. Hein. C'est pas parce qu'on ne fait pas le lien qu'on n'a pas cette connaissance, principalement sur le jeune enfant, sur le fœtus, que pour autant, il n'y a pas de souci. D'autre part aussi, ce qui était important à dire là, c'est qu'on a une interaction de différentes substances. Et là on n'a aucune notion de savoir ce qui peut se passer sur l'organisme, toujours encore plus sur le tout petit. À un moment précis, finalement, le ministère des Finances a voulu déménager certains de ses locaux dans la résidence qui a été reconstruite sur le site Kodak. Et nous avons été interpellés par les différents syndicats pour faire en sorte de les aider à comprendre un peu ce qui se passait. Et effectivement, après est venu un procès, puisqu'on a fait un papier ensemble, un tract qui interpellait directement le préfet et le maire sur l'incapacité de dépolluer cette zone. Et ce papier n'a pas plu. Et effectivement, j'ai été attaquée en tant que présidente de l'association collective Jean Franklin. J'ai été attaquée. Donc j'ai subi un procès en diffamation par le maire de Vincennes. Il a été débouté en juillet dernier.
On voit bien que quand on rentre dans ces affaires-là, ça n'est pas sans danger. Fabrice Nicolino, vous vouliez...
Moi, je voulais juste dire un truc par rapport à la parole d'Henri, là, qui m'a frappé, bien entendu. Il parlait de la création de deux instituts. Et bien sûr, je lui donne raison, mais il me paraît évident qu'on n'y parviendra pas sans un rapport de force sociale plus favorable à ceux qui sont les victimes de ces pollutions. Je n'y insiste pas, tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait. Dans la société telle qu'elle est, ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Et je voulais dire un petit mot à propos d'Henri, parce que moi, je me permets de le dire, parce que j'en ai parlé avec lui. Henri ne s'était pas retrouvé non plus chercheur et militant tout à fait par hasard, on s'en doute. Et pas seulement parce qu'il travaillait à Jussieu. C'était un homme extrêmement proche du peuple. C'est un homme qui avait milité au Parti communiste français, qui avait été aussi opposant au Parti communiste, c'est-à-dire anti-stalinien. Il n'avait donc pas suivi la ligne officielle de ce parti, mais en tout cas, il avait cette tradition-là, qui est une tradition que je juge, moi, très importante, hein, si, en dehors de toute autre considération. Il est vrai qu'aujourd'hui, plus personne dans la société française ne parle d'ouvriers, plus personne ne prend la défense des ouvriers. Et je me permets de faire un tout petit rapprochement, qui sera compris, je l'espère, dans la société polonaise. D'avant la fin du communisme, il y avait un comité d'intellectuels qui s'appelait le COR et qui a joué un rôle tout à fait décisif dans la création du syndicat Solidarité. Et il m'est arrivé, franchement, dans le passé, pensant à Henri, il m'est arrivé de penser à cela. C'est-à-dire, il m'est arrivé de rêver de la création d'une structure intellectuel, scientifique, au service du peuple. On en est très loin, mais je pense que Henri incarnait parfaitement cette tension-là.
Annie Thébaumoni.
Ce qui était très important pour lui, c'était aussi, tu l'as dit, il était oppositionnel dans le parti, mais il était aussi chercheur non aligné dans la recherche. Et moi, je voudrais du coup insister un peu là-dessus, parce que le problème de la recherche scientifique aujourd'hui, c'est des voies tracées. Et pratiquement, tout le monde s'engage un peu dans les mêmes. Et Henri a eu ce courage, alors en sciences fondamentales et en sciences dites dures, de faire des choix qui faisaient qu'il se mettait dans une position fragile du point de vue des structures d'évaluation du CNRS, de tout ce qui... vaut une reconnaissance dans le milieu scientifique. C'était très difficile pour lui d'arriver à publier alors que la publication est la référence pour vous qualifier de bon ou de mauvais chercheur. Et il n'a pas eu peur de ça. C'est-à-dire qu'il a toujours dit, depuis le début des années 80, quand il a monté cette équipe, je dirais en opposition à son directeur de labo, que pour lui, ce qui comptait, c'est le sens qu'il donnait à cette recherche. Et en faisant ça, il met l'accent sur des choses que Véronique a expliquées, c'est-à-dire, par exemple, sur la recherche sur le cancer, il est absolument... Ou dans l'environnement, les gens sont exposés à plusieurs polluants à la fois. Dans l'enquête que nous menons actuellement en Seine-Saint-Denis, où il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu pour faire cette enquête sur les cancers professionnels, 85% des patients que nous avons dans cette enquête, sur 900 patients maintenant, ont été lourdement exposés à des cancérogènes et pour la très très grande majorité, à 3, 4, 5 cancérogènes différents, il n'y a pas une seule étude épidémiologique qui porte sur les effets de synergie entre tous ces polluants industriels.
Voilà, chercheur non aligné, dites-vous, Annie Thébaumoni, et de fait, ce qui est tout à fait remarquable également dans la trajectoire d'Henri Pezerra, c'est qu'on l'a dit, il a démarré en quelque sorte sur l'amiante, c'est-à-dire l'amiante a été l'occasion d'une prise de conscience. On le sait, l'amiante, c'est pratiquement le seul polluant aujourd'hui qui donne une forme de cancer très typique, c'est le mésothéliome. Donc le lien de causalité est relativement simple à faire. À partir de là, il a complètement élargi sa manière d'observer, de voir, et il est devenu, il a été pratiquement un des artisans de cette nouvelle profession que là encore on s'acharne à ne pas développer en France, qui est celle de l'écotoxicologie, c'est-à-dire qu'il a véritablement développé une connaissance justement de ces effets croisés entre différents polluants, du fait qu'un polluant peut atteindre différents organes, causer toutes sortes de maladies, et que plusieurs polluants peuvent également intervenir. Tout ça, c'est quelque chose qui l'a aidé à façonner et à conceptualiser. Alors j'aimerais peut-être, si on l'a en ligne, qu'on écoute Michel Coste, qui est un des derniers à avoir rencontré Henri. Michel Coste, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je suis en ligne, je vous écoute.
Et vous êtes secrétaire de CHSCT et permanent CGT sur les risques chimiques. Et
non, donc... Je ne suis pas secrétaire de CHSCT, mais je travaille sur les questions de...
Ah, pardon. En tout cas, vous travaillez sur les risques chimiques et j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'Henri Pezra vous a apporté dans votre, d'une part dans votre connaissance des sujets sur lesquels vous travaillez et peut-être aussi dans la forme, dans les formes de lutte que vous avez pu développer.
Henri nous a apporté toute la connaissance qu'il avait, mais aussi tout son engagement. C'est-à-dire que ça permettait de prendre une dimension qui dépassait le monde du travail, où on est souvent en difficulté pour combattre ces maladies, parce qu'on manque de connaissances, et Henri comme Annie nous apporte leurs connaissances, mettent à notre disposition tout un savoir qui nous permet de passer un cap et de mieux appréhender toutes ces maladies là, qui sont liées au travail. Et puis les situations se dégradent aujourd'hui dans le monde du travail. On est en train de subir une dégradation depuis quelques années. C'est phénoménal, quoi.
C'est une dégradation que vous aviez remarquée, Annie Thébaumoni, autour des années 80, disiez-vous. Il y avait en fait une sorte de quelque chose qui permettait plus ou moins d'endiguer les accidents du travail, tout ce qui était lié au monde du travail en termes de santé. Et puis à partir des années 80, avec la déréglementation, avec la sous-traitance, avec la libéralisation forcenée, il y a une explosion à ce moment-là.
En fait, au lieu de s'engager dans une voie de santé publique, hein, qui est finalement la voie qu'on a choisie avec Henri comme espace de nos recherches, pour l'amélioration, pour la transformation du travail, la voie qui a été choisie, c'est de déléguer la gestion des risques dans le cadre de la sous-traitance à des entreprises qui n'en ont pas les moyens. Et toutes les grandes entreprises, c'est ce qu'elles font. Et le procès AZF à Toulouse me paraît être le procès de la sous-traitance aujourd'hui. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Michel et ce que tu disais sur le caractère de chercheur engagé. En rappelant une anecdote, en 1996, quand le groupe de travail, quand l'INSERM, donc mon institution, décide d'une expertise collective sur l'amiante qui a précédé l'interdiction, ni Henri ni moi n'étions dans le groupe de travail. Henri était le chercheur par excellence qui aurait dû y être. Et moi, j'avais un travail en sciences sociales, bien sûr, sur les questions de réparation. On était les deux seuls chercheurs en France à faire un travail de recherche scientifique sur l'amiante. Lorsque j'ai appelé un des collègues qui gérait cette expertise collective, en lui demandant « Mais pourquoi est-ce que nous n'y sommes pas ?», il m'a répondu « Parce que, tu sais bien, vous êtes trop engagé. » Et à ce moment-là, j'ai répondu « Les autres, ceux qui siègent et qui sont du comité permanent amiante, qui existait encore à l'époque, de quel côté sont-ils engagés ?» Je n'ai pas eu de réponse.
Alors, je voudrais peut-être vous faire entendre une autre archive, un entretien qu'on avait eu avec Henri Pezra autour de la question de seuil, de valeur limite.
Je crois que l'exemple de l'amiante est effectivement éclairant sur un certain type de seuil, ou sinon de seuil, disons, de ce qui était appelé valeur limite, et ce qui est encore appelé valeur limite de polluants dans l'atmosphère. Quand on a commencé les bagarres sur l'amiante en 1975, il n'y avait pas de valeur limite réglementaire pour l'amiante dans l'air, dans les milieux industriels. Le décret de 1977 que nous avons obtenu suite à ces batailles qui ont commencé en 1975 a introduit la valeur qui existait à ce moment-là en Grande-Bretagne, qui était de 2 fibres d'amiante par centimètre cube d'air. À cette époque, le collectif de Jussieu, auquel j'appartenais, a publié un communiqué disant qu'il s'agissait d'un décret alibi, le décret qui fixait cette limite, en ce sens que ça n'apportait absolument pas la réponse au danger, puisque, en gros, avec cette valeur, on était à peu près sûr de diminuer le nombre de fibroses, mais qu'en tout cas, ça ne jouait absolument pas sur les cancers. C'est-à-dire que le risque de cancer n'était pas diminué ou très peu diminué, qu'on soit en dessous de cette valeur limite à 2 Fibs centimètre cube ou qu'on soit au-dessus. Donc, manifestement, là, si vous voulez, c'est l'exemple de ces valeurs limites qui sont tout simplement des résultats de compromis entre des acteurs sociaux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des valeurs scientifiques, ce sont des valeurs résultats d'un compromis où on vous dit il est absolument indispensable qu'on puisse continuer à travailler, autrement on va fermer les entreprises, donc vous ne pouvez pas vouloir une telle chose. Et par ailleurs, vous voulez protéger donc la population exposée, donc on va diminuer un peu. Et finalement, il y a une cote mal taillée qui sort de ce genre de 2 fibres au centimètre cube. On a vu que finalement, ça n'avait rien protégé du tout et qu'aujourd'hui, on est face à une véritable catastrophe sanitaire avec l'ensemble des décès par l'amiante. Alors, en fait, c'est aussi significatif qu'entre 1977 et 1996, on soit passé par étapes successives de 2 fibres centimètres cubes à 0,1 fibre centimètre cube. C'est-à-dire on a diminué d'un facteur 20. Et entre-temps, il y a eu des étapes avec des tas de valeurs intermédiaires, etc., chaque fois qu'il y avait un peu des combats qui se menaient et qui obligeaient à modifier le compromis. Donc il faut bien voir déjà que la plupart ou quasiment toutes les valeurs que l'on nous donne comme valeurs limites, que ce soit dans les sols, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'air, sont toutes ces valeurs sont le résultat de compromis sociaux. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas des valeurs scientifiques, c'est des valeurs qui se négocient entre adversaires, les uns animés par une logique de santé publique, les autres animés par une logique économique et purement économique.
Je vous le dis tout net, cet entretien, nous l'avions réalisé en novembre 2001 et il m'a fait comprendre. Véritablement, plus que tout ce que j'avais pu entendre avant. Annie Thébaumoni.
Alors, c'est un point absolument crucial actuellement, parce que, il y a une réglementation européenne qui est en train d'essayer d'émerger, mais qui est complètement prisonnière de cette logique de compromis qui fait que. On a en France très peu de valeurs limites impératives, la plupart ne sont qu'indicatives, et en plus, ce ne sont pas des valeurs protectrices. Il faut savoir qu'un cancérogène est cancérogène dès le premier contact. Et alors actuellement, il y a une discussion autour de... il y a donc une valeur limite amiante, mais il y a une discussion autour des fibres longues ou courtes. Et l'AFCET est dans cette logique de compromis parce que on n'a pas d'études épidémiologiques, une fois de plus. On ne sait pas compter les morts liées aux fibres courtes. Et donc, on ne déciderait pas d'un danger par rapport à l'exposition à des fibres courtes.
Véronique Lapidès, un petit mot de conclusion. Et puis Fabrice Nicolino aussi, rapidement.
Oui, je voulais reparler de ce qu'avait pu apporter Henri à notre association, à beaucoup d'entre nous, parce que certainement, évidemment, il apportait un soutien moral et scientifique, mais ça pouvait aller plus loin, et ça allait plus loin dans beaucoup de cas, parce qu'il savait aussi transmettre, c'était un professeur, il ne faut pas l'oublier, donc il transmettait ses connaissances, sa rigueur scientifique. C'est les débats qu'on a pu avoir ensemble qui ont fait aussi que beaucoup de personnes ont pu continuer, ont pris conscience de ce qui se passait, ont pu avancer.
Fabrice Nicolino.
Oui, je voulais juste ajouter un petit mot. C'est vrai que cette question des seuils qui a été évoquée par Henri et puis par Annie à l'instant, et je reprends le mot d'Annie, crucial, mais je pense que ça fera plaisir à Henri si toutefois il peut nous entendre. Je suis convaincu, moi, que seule une secousse sociale, une secousse de nature historique, permettra vraiment d'avancer sur ces sujets, permettra véritablement d'imposer des solutions de santé publique, parce que, pour reprendre une expression ancienne qui n'est plus beaucoup utilisée, je pense profondément que seule la lutte paie.
C'était Henri aussi, cet homme débordant de chaleur humaine et dont on sent bien l'affection qu'il a pu susciter chez les uns et les autres. C'était Henri, ce militant engagé, qui a permis à tous à la fois d'avancer sur la lutte, mais aussi sur la compréhension fine de ce qu'il fallait faire. Merci à vous tous, Josette Rouder, Anité Beaumoni, Gérard Voide, Véronique Lapides, Fabrice Nicolino, Christian Mico, Michel Coste. Merci aussi à ceux qui n'ont pas pu venir mais qui ont envoyé des mots pour dire à quel point ils regrettaient de ne pas être avec nous ce matin. Et merci à Henri Pézra. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à terre qui vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation de documentation Laurence Genepin, Anne Gouzon, prise de son et mixage Mathieu Leroy, réalisation Olivier Bétard. Bonne semaine à tous. Thank you.